Et là, maintenant, tout de suite, on a une surprise pour vous. Pendant ce radio-don, pendant ce direct, là maintenant, nous sommes au téléphone avec Erwan Lemoredec. Bonjour Erwan.
Bonjour Thibault.
Erwan, peut-être quelques auditeurs vous connaissent-ils depuis quelques années, s'ils vous suivent sur Internet, sous votre pseudo de Cause Toujours, ou si sous votre nom d'Erwan Lemoredec, vous tenez toujours un blog. On vous qualifie volontiers d'influenceur. Ça va, vous assumez ça?
Les autres me qualifient peut-être comme ça, moi je n'objecte rien.
Vous n'objectez rien, c'est bien. Il y a quelques années, vous avez rédigé un livre qui s'appelait « Identitaire, les mauvais génies du christianisme ». Et quand il est paru, vous êtes venu à Toulouse pour un échange avec le dominicain Henri Donneau. Alors on n'est pas tous les jours le protagoniste d'une disputation en bonne et due forme avec un dominicain. Quel souvenir est-ce que vous en gardez?
Je garde le souvenir d'un échange assez franc, assez direct, y compris avec lui, y compris avec la salle. Un moment animé, je dirais.
Oui. Le sujet prête à l'animation, et c'était une disputation.
Le sujet y prête, et à vrai dire, quand je vois la dérive identitaire dans tous les sens du terme de la société actuelle, je ne regrette pas d'avoir soulevé la question.
Et personne ne le regrette, et on est très heureux en tout cas que vous soyez venu à Toulouse pour cet échange. Alors c'est pas pour ce livre que vous êtes là aujourd'hui au micro. Il y a quelques mois, vous avez publié un autre ouvrage, Fin de vie en République. Alors on vous attendait peut-être pas forcément frontalement comme ça sur le sujet de l'euthanasie. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient votre motivation personnelle pour écrire ce livre?
Alors, il y a des motivations profondes qui sont personnelles, un peu dues à mon histoire. Ce qui est plus public, je dirais, c'est que dès 1997, en fait, j'ai été en contact avec une personne, une amie qui était infirmière en soins palliatifs. Et donc, à cette époque-là, alors que les soins palliatifs n'étaient pas encore très développés, n'étaient même pas encore reconnus et encadrés par la loi, puisqu'elle est de 99, j'ai eu l'occasion de savoir ce que l'on pouvait faire en France et ce que l'on pouvait répondre à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui est malade, qui envisage cette question au-delà de lui dire simplement « tu ne tueras point si on fait référence à l'interdit civilisationnel » ou « c'est un homicide si on parle simplement du droit pénal ». Et donc je pense que ça fait à peu près 25 ans que cette question m'intéresse, que je me renseigne, que je me forme, que je vais rencontrer des soignants. Et ce qui a été le déclencheur, en fait, ça a été le débat sur la proposition de loi Falorni en avril 2021, qui a failli faire passer l'euthanasie dans le droit français.
Il doit en falloir de la résistance pour contrer justement tous ces projets, toutes ces attaques législatives. Vous êtes vous aussi personnellement la cible d'attaque depuis que vous êtes publiquement engagé contre l'euthanasie?
Je ne surévaluerai pas ces attaques, mais il est certain qu'à partir du moment où on prend la parole publiquement, il faut assumer le fait qu'il y aura de la contradiction. Par moment, oui, il y a plus que de la contradiction. Il y a effectivement des propos agressifs, dénigrants, qui sont jamais très agréables à entendre. Mais bon, voilà, je fais face à ça. Je dirais qu'à la rigueur, les plus agressifs, voire injurieux, ne sont pas ceux qui m'atteignent le plus. Je trouve qu'ils se disqualifient d'eux-mêmes.
Oui. Et vous les pointez régulièrement justement dans ces disqualifications, parce que justement le caractère parfois outrancier perd de leur légitimité.
Oui, j'ai en particulier un interlocuteur qui vient régulièrement au contact, mais qui est suffisamment peu qualifié pour dire des âneries régulièrement, donc il me rend plutôt service dans ces cas-là. J'ai aussi eu effectivement la DMD qui m'a gratifié d'une chronique dénigrant mon livre. Ça me pose aucun problème, si ce n'est que ils entendent les propos, mais bon, ça, je m'y attendais. Mais après, être dénigré par la DMD sur la question de la légalisation de l'euthanasie, c'est presque le ruban rouge.
C'est presque un titre de gloire. Alors, quand on vous suit un petit peu sur Twitter ou sur Facebook, on est surpris par le nombre et par la variété de vos interventions. On dirait que le combat est protéiforme qu'il prend des, à n'importe quel moment, sur n'importe quel prétexte, vous bondissez et vous tâchez de rétablir la vérité, de donner un autre écho. Ça ne s'arrête jamais, en fait.
Oui, et c'est vrai que ce sujet, sur ce sujet en particulier, ça me prend très à cœur. Je me suis d'ailleurs engagé dernièrement dans un bénévolat en soins palliatifs, et donc je veux dire qu'il y a une dimension presque affective même avec ce milieu que je supporte pas de voir effectivement dénigré ou victime de mauvaises informations. Oui, après, ben, tout ça, c'est un peu, c'est dans ma façon d'être simplement. Quand je lis, c'est un peu le dessin satirique d'un monsieur qui est devant son ordinateur et qui répond à sa femme, oui, j'arrive, je vais me coucher, il y a quelque chose de faux sur Internet. Bon, c'est parfois un peu ça, mais c'est vrai que quand je vois quelque chose, je réagis intérieurement, j'ai du mal à ne pas extérioriser ma réaction.
Vous parlez de soins palliatifs à l'instant et votre engagement. C'est en fait un double engagement. C'est un engagement contre l'euthanasie et c'est un engagement pour les soins palliatifs. Il faut maintenir ce caractère positif et cette mise en valeur, ne pas seulement lutter contre.
Ah ben, pour moi, on peut pas faire l'un sans l'autre. On peut pas ne pas comprendre des demandes d'euthanasie, même si je pense qu'elles sont beaucoup moins fréquentes que ce que l'on affirme. Mais le fait de ne plus supporter une maladie que l'on supporte est éminemment compréhensible. Donc on peut pas se contenter de dire non à l'euthanasie. Il faut proposer autre chose. Il se trouve que les soins palliatifs sont quand même une réponse qui certes peut pas répondre à tout. Il faut jamais oublier quand même qu'on est dans une situation tragique, qu'on finira par mourir et certains mourront dans la maladie. Mais néanmoins, avec cette limite que l'on ne peut pas répondre à tout ça, y compris fondamentalement à l'angoisse existentielle, en soins palliatifs, on fait des choses formidables qui permettent d'apaiser et d'accompagner le plus sereinement possible la fin de la vie des gens.
Oui. Dans le côté combat, pour le coup, je reviens dessus, on vous sent parfois un petit peu découragé quand même. J'ai été marqué pour votre dernier édito de la vie. Je vais me permettre de citer les premières lignes. Lancer une consultation à l'objectif fixé d'avance, la confier à une institution qui s'est distinguée par un avis d'un rare esprit partisan, sous la houlette d'une ministre dont la conviction est arrêtée et d'un porte-parole du gouvernement qui ne voit pas d'autres questions à traiter que celle de la mise en œuvre de l'euthanasie, c'est pas encore suffisant, il fallait encore changer le vocabulaire. Vous avez encore l'esprit combatif?
Disons que je crois à ce que je dis, je crois à ce que je vis. Après, je suis pas naïf et je vois bien qu'effectivement toute cette consultation, tout ce qui peut être bordé par le pouvoir de partout l'est effectivement, que ce soit les personnes auxquelles on confie la consultation, que ce soit le vocabulaire que l'on emploie, voire que l'on va modifier, enfin tout est mis en œuvre pour nous conduire mécaniquement à une solution fixée à l'avance et qu'on pourra pratiquement pas critiquer parce qu'on se retrouvera avec 150 citoyens qui auront dit que c'était bien et en plus on lui aura donné un joli nom qui fera plus peur à personne, que ce soit l'aide active à mourir ou comme au Canada l'assistance médicalisée à mourir. Donc oui, par moment effectivement j'ai bien conscience que j'ai eu de la mer avec une petite cuillère, mais...
Là, qu'est-ce qui vous fait tenir, alors?
Ben, sur ce sujet, c'est la conviction qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas laisser passer cette question de l'euthanasie sans avoir dit ce que l'on avait à dire. Ouais. La conviction que c'est un mauvais choix immédiat pour les personnes concernées, pour celles que ça, sur lesquelles ça aura des répercussions inévitables, hein, que ce soit les autres malades, que ce soit les proches, que ce soit les soignants, et un mauvais choix pour notre société et pour notre civilisation. Donc dans ces conditions, c'est ayant en plus la chance d'être assez bien informé sur le sujet, je ne conçois pas de me taire.
à la fois informé et en même temps acteur. Je vais me décaler. Je vais vous demander de vous adresser aux auditeurs directement, ceux qui nous écoutent maintenant en direct. Peut-être c'est ce qu'ils auront l'occasion de discuter autour d'eux de ce sujet. Et peut-être qu'ils sont fragiles ou incertains ou qu'ils savent pas trop en parler. Ce serait quoi pour vous l'argument fort et simple à utiliser quand on veut s'opposer à la législation de l'euthanasie?
Fort et simple, vous me posez presque une colle parce que c'est un sujet complexe.
Bien sûr.
Maintenant, si on essaye de trouver un élément, on peut dire que l'euthanasie, ce sera peut-être une liberté pour les plus forts, mais ce sera une contrainte, voire une oppression pour les plus faibles, pour les plus vulnérables. On ne peut pas se contenter d'envisager cette question sous un angle purement individuel, surtout quand on regarde ça depuis une situation de bien portant, en se disant que le jour où la question se poserait, on sera en mesure de prendre la décision. L'euthanasie, c'est une question qui va aussi se poser à des gens qui sont âgés, qui sont fatigués, qui sont isolés, qui sont en situation précaire, qui sont parfois d'un caractère faible. C'est pas pour dénigrer que je dis ça, c'est simplement que voilà, la nature humaine, elle est comme ça. Et certains résistent à la pression, certains ont une résistance faible, à la suggestion, que ce soit de la société, des médecins, des proches. Et donc il y a des personnes qui seront amenées à demander l'euthanasie et éventuellement à être euthanasiées parce qu'ils en auront quelque part été convaincus, même pas directement mais convaincus. Et puis des gens, et ça c'est pas une vue de l'esprit, des cas concrets, j'en ai reçu le témoignage de gens qui seront susceptibles de demander l'euthanasie et d'être euthanasiés pour ne pas être un poids et pour ne pas déranger les autres. C'est arrivé. Oui. Et ça arrivera de nouveau.
Eh bien, j'espère que ces arguments vont être compris et assimilés par ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'il faudra réécouter votre émission en podcast pour les réassimiler, mais c'est important, c'est vrai qu'on comprenne ces enjeux, qu'on sache en parler. Merci Erwan de nous avoir fait l'amitié d'intervenir sur Radio Présence. Peut-être pour finir, d'un mot, est-ce que vous pouvez encourager, vous savez qu'on est pendant notre radio don, si d'un mot vous pouvez dire en quoi est-ce que c'est bien d'avoir une radio comme Radio Présence, en quoi est-ce qu'il faut l'encourager et la soutenir?
Bon, tout simplement le pluralisme. Et en particulier, sur mon sujet, on peut pas dire que le pluralisme soit garanti par tous les médias sur cette question-là. On a souvent des plateaux qui sont totalement déséquilibrés. Donc, il faut bien qu'il y ait des canaux par lesquels on puisse porter un peu de contradiction et un petit peu de variété d'opinion. Donc c'est utile. Et puis, j'espère de l'espérance.
Merci beaucoup. Merci Erwan. Donc, chers auditeurs, vous pouvez appeler maintenant le 05 62 48 63 00. Nous allons faire une courte pause musicale pour laisser le temps à nos auditeurs d'appeler. Et puis, nous partirons dans le sud de la Haute-Garonne retrouver Éric Leclerc qui reçoit un invité très prestigieux. C'est la surprise. Merci encore, Erwan.
Merci.